Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vais vous soumettre à une lecture assez fastidieuse et longue. Quatre mots. Ça va ? Ben, prenez donc l'évangile de Matthieu, chapitre 16. C'est même pas un verset. C'est une partie, une fraction de verset. Et ça a d'autant plus de valeur que c'est pas les hommes qui l'ont dit, c'est Jésus qui le dit lui-même. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Jésus dit à ses disciples, il le dit aux hommes du monde entier jusqu'à nous, « Je bâtirai mon église. » Ça va, vous n'êtes pas épuisé ? « Je bâtirai mon église. » L'église. Combien controversé, combien disputé, combien engagé dans toutes sortes de choses de controverses. L'église défigurée. Et c'est pas de celle-ci que je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler de l'Église selon les enseignements qui nous sont donnés dans l'Évangile. Et c'est une norme, c'est normatif, c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir si quelquefois, le temps passant, eh bien, nous perdions la vision de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. C'est important, dans notre temps, ça l'a été au regard de tous les événements qu'il y a eu pendant 20 siècles de christianisme, et c'est important pour la suite, ne serait-ce que déjà pour cette église locale. Souvenez-vous de ce que nous allons dire ce matin. C'est important. J'ai eu à le dire et je le redis, ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord ? Ben, c'est bien. Vous avez remarqué, pronom personnel « je bâtirai mon église ». On s'est peut-être fourvoyé. Certaines grandes religions que dont nous connaissons naturellement, eh bien, l'ampleur a passé que on pensait que tu bâtiras mon église. Voyez à quoi je fais allusion. Tu bâtiras mon église, parce que dans le texte ça pourrait être comme ça. Si véritablement il n'y avait pas une explication pertinente et de compréhension du grec entre Petrus et Petra, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a déjà vu ça. Jésus n'a pas dit « Nous bâtirons l'Église ». Ça nous rappelle un peu la tour de Babel. Unissons-nous, mettons tout en commun et nous arriverons jusqu'au ciel. Non, c'est le ciel qui est descendu vers les hommes, c'est pas les hommes qui montent au ciel. Vous bâtirez. Je suis en train de faire de la conjugaison, mais bon. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et ça, c'est important. Église grec, ecclésia, ça veut dire hors d'eux, hors du monde, vivant dans le monde, mais n'étant pas dans la mentalité et dans l'état d'esprit du monde. On le comprend. Ça donnait un mot en théologie, ecclésiologie. Je ne vais pas être compliqué, c'est l'étude de l'Église. Avec son histoire, l'histoire des siècles, l'histoire de ses divisions, l'histoire de ses guerres, l'histoire de ces engagements illicites, contraires à la pensée de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu peux haïr ton ennemi, profites-en. À travers toutes les époques, à travers les sociétés, les événements et les fluctuations du monde et des nations, parce que l'Église n'a jamais été indépendante, finalement, de tout ce qui se passe. Or, nous voyons la signification. Ça veut dire hors d'eux. L'Église ne fait pas de politique. L'Église n'est pas engagée dans tout ce qui peut agiter le monde aujourd'hui selon les modes, selon les tendances, toutes sortes de choses. L'Église a eu des fortunes diverses. Et si vous voulez vous en rappeler, et nous avions fait une étude complète, point par point sur le sujet, nous avons les reflets des gloires de l'Église et de ses abîmes. à travers le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, à travers l'église de Laodicée. Ce sont à la fois les gloires, ses gloires, et puis aussi, finalement, sa déchéance, ses abîmes. Alors, si l'on reprend un peu notre sujet, je bâtirai mon église. J'aimerais être bref, ça sera peut-être un petit peu concis ce matin, disons, pour que nous ayons une idée générale de ce qu'est l'église. Qu'est-ce que l'église aujourd'hui pour un grand nombre de gens de notre monde? Notre monde soi-disant christianisé, c'est un bâtiment, c'est là où il y a en effet des cérémonies, des rites, enfin toutes sortes de choses. J'aimerais justement rapporter à votre mémoire et nous rafraîchir pour nous-mêmes la définition, son utilité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce que nous appelons l'église locale, ce que nous appelons l'église universelle, son fonctionnement, parce que c'est quand même un organisme qui fonctionne, c'est vivant l'église. Et puis, au cœur de toutes ces choses, eh bien, il y a les ministères qui fonctionnent. Ce n'est pas un clergé, ce n'est pas clérical, ce n'est pas ecclésiastique, si vous voulez, au sens même du terme. Non, ce sont des dons de Dieu, des ministères, on en reparlera brièvement tout à l'heure, au nombre de saints. Leurs tâches, ce qu'ils font, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, et puis les enseignants, que l'on appelle docteurs, docte, celui qui sait, qui connaît, qui enseigne les autres, hein, naturellement. À travers l'exercice des dons spirituels, comme nous avons vécu brièvement tout à l'heure. C'est ça l'Église. Et puis l'Église, Jésus le dira, c'est une maison de prière. Et la prière, c'est beaucoup plus vaste que nous le pensons. La prière, c'est la louange, c'est l'action de grâce, c'est l'adoration, c'est la requête, c'est la supplication, c'est toutes sortes de choses semblables. Alors donc, j'ai tracé déjà une petite ligne qui nous permet de savoir ce que ça veut dire. « Je bâtirai mon église », nous dit Jésus. Il le dit à ses disciples. Il leur dit pas « Vous allez faire maintenant comme j'ai fait, puis vous allez construire vous-même après. Hein. » C'est pas ça du tout. Hein. C'est sur les bases de Jésus, de ses paroles, de son exemple, et fondé naturellement sur son sacrifice. Et pour que l'église soit vivante, c'est ça nous rappelle que Jésus est ressuscité. Et que Jésus n'étant plus au milieu de nous physiquement, comme il l'a été pendant 30 et quelques années, 3 ans de ministère particulier, mais Jésus est au milieu de nous, comme il en a fait la promesse, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins ici, ailleurs et partout. » Alors, ça nous donne une idée. « Je bâtirai mon Église. » Ce n'est pas l'Église, quel que soit le nom qu'on l'ait donné, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, et par-delà, finalement, certainement encore une multitude, une kyrielle d'appellation, l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et la référence, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous a enseigné. Point besoin d'avoir des théologies déviantes, toutes sortes de choses qui viennent, soi-disant, compléter ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est suffisante. Et d'ailleurs, toutes les exhortations que Paul nous donne, et Pierre également, et puis Jean, dans le Nouveau Testament, c'est pour nous mettre en garde contre tout ce qu'il peut y avoir de parasitage, tout ce qu'il peut y avoir de dérapage, tout ce qu'il peut y avoir de satellite autour de cette notion d'église. Alors, c'est important que vous puissiez vous en souvenir, que vous puissiez demain, avec d'autres conducteurs spirituels, vous souvenir de ce qu'est l'Église, parce que vous êtes attachés à la personne de Jésus, et vous tenez quand même à ce que l'Église reste ce qu'elle est, selon l'enseignement biblique et la conduite du Saint-Esprit. On peut faire beaucoup de choses avec l'Église. La définition. Le dire d'une manière très brève, c'est le rassemblement des chrétiens qui croient en Jésus-Christ, d'où le nom de chrétien, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement le fait de croire, parce qu'il y a une multitude de gens qui se réclament du christianisme et qui croient en Jésus-Christ. C'est pas seulement ça. C'est quelque chose de beaucoup plus précis. Jésus, lorsque il a fait autour de lui, un petit groupe, il les a appelés ses disciples. Pourquoi ses disciples? Ce n'est pas des adhérents. Ce n'étaient pas des gens qui, quelque part, ont trouvé que c'était très sympathique de suivre un homme qui marchait en sandales sur les routes poussiéreuses de Palestine et qui disait des choses agréables, qui faisait des choses agréables, qui était pour beaucoup de gens un faiseur de miracles. Non, un disciple, c'est quelqu'un qui est au pied du maître et qui écoute ses paroles et qui, là, va s'imprégner de ses paroles et qui va finalement, être au service à la fois du message, de l'auteur du message, et qui vont devenir des messagers, tout simplement, des disciples. Après la définition brève, c'est l'utilité. À quoi ça sert l'Église ? C'est accomplir un devoir de conscience une fois par semaine, ou quelques fois dans la semaine, ou peut-être se précipiter lorsque il y a des tempêtes dans notre vie en disant « Tiens, oula, je vais venir prier dans l'Église. Je vais là me mettre un petit peu en dehors de ceci et cela, et puis ça va peut-être me calmer, ça va apporter des bienfaits. » Non. L'utilité, c'est un lieu d'abord où l'on prie. On ne prie pas forcément tout seul. Pour cela, vous avez vos maisons. Vous pouvez prier en couple, je vous le recommande. Vous pouvez prier entre vous, les chrétiens. Et le lieu n'a rien de particulier où vous seriez entendu plus favorablement que dans un autre endroit. Mais c'est un lieu où l'on prie ensemble. C'est un lieu où on chante. Vous avez remarqué ? Alors bon, on dira c'est une tradition évangélique, mais chanter, ça nous permet de trouver les mots qui ont été écrits par d'autres des auteurs, de mettre une musique dessus, comme dans les psaumes par exemple, et de pouvoir chanter les louanges et glorifier le Seigneur, ou apporter peut-être nos peines et nos chagrins, y trouver dans le chant une consolation. L'Église sert à ça. Combien de fois nous avons, à travers des cantiques venant l'âme en peine ou chargée par toutes sortes de préoccupations, venu charger et repartir avec la joie et l'allégresse à l'intérieur de nous-mêmes, à travers peut-être quelquefois un seul chant. Donc, on y prie, on y chante, les louanges, l'adoration, on l'a entendu ce matin, la célébration du culte. Il n'est pas question, dans le contexte où Jésus nous parle et nous enseigne « Je bâtirai mon Église », d'une messe. Ça n'a rien à voir avec la messe. Un culte, c'est quoi ? C'est tout simplement, là, apporter l'honneur et la gloire à Dieu. Vous me direz, on le fait dans une messe, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le message de Jésus. Je parle du culte. Un culte d'adoration, et je voudrais y mettre l'adjectif, si vous permettez, évangélique, pour ne pas dire un culte religieux. Parce que ce n'est pas religieux. Ça n'a rien de voir avec la religion. D'ailleurs, Jésus a eu des paroles, un réquisitoire terrible par rapport aux pharisiens, par rapport au temple, par rapport à la synagogue, en disant « Mais vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. » Un culte, ce n'est pas traditionnel. C'est quelque chose qui est animé par l'esprit de la reconnaissance, de la gratitude à l'égard d'une seule personne, la personne de Jésus. C'est pas la multiplication des saints et des saintes. Le culte évangélique, pour nous dire qu'il s'inspire de l'évangile et de ce que Jésus nous dit dans ces quatre mots, « Je bâtirai mon Église ». Et puis, une chose, l'utilité de l'Église. Et c'est peut-être marqué particulièrement dans le protestantisme, dans nos milieux, nous. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quelquefois, les prédications sont longues. Mais si la prédication paraît longue, c'est que peut-être le prédicateur manque de l'esprit, ça c'est possible. Non, l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est essentiel parce que c'est l'apôtre Paul qui va résumer, si vous me permettez, il va résumer. Il dira, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans toutes les églises dites églises chrétiennes, où il n'y a plus la parole de Dieu, où il y a des homélies, où il y a des discours, où il y a de la sociologie, où il y a de l'humanitaire, etc., etc., ce n'est plus la parole de Dieu, bien que tout cela peut s'inscrire. Mais néanmoins, c'est avant tout l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Oui, parce que la foi, votre foi d'aujourd'hui, pour la plupart, vous êtes désengagés, mais vous avez besoin de cette nourriture spirituelle. Et Paul fait une grande place dans ses épîtres, 13 épîtres, par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est vrai que on y met le temps chez nous, si l'on peut dire, pour que véritablement la foi se construise. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être une consolation, ça peut être une exhortation, ça peut être un enseignement de fond, un rappel de ceci et cela, l'enseignement. Vous savez, quand on prend le modèle qui nous est donné, parce que moi je crois qu'il n'y a rien d'autre et de plus excellent que ce que nous dit finalement, eh bien, les modèles qui nous sont laissés. Par exemple, je regarde dans Actes chapitre 2, verset 42. Il est dit, en parlant des disciples tout de suite, à la naissance de l'église première, l'église primitive, il est dit, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. L'utilité de l'église, l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, ça recouvre beaucoup de choses, on en parlera tout à l'heure. Dans la fraction du pain, le repas de Sainte-Cène, rien à voir avec l'Eucharistie, d'accord? Dans les prières, je viens de vous citer les choses essentielles. Et il nous est dit que la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Une belle image de ce que peut être l'Église. Ce qu'elle n'est pas toujours, même dans nos milieux, où il y a des dissensions, il y a des querelles, il y a des comptes qui sont réglés, il y a quelquefois de la jalousie. Bon, j'arrête, hein. Mais c'est pas normal. Ça, c'est pas « je bâtirai mon église ». Il l'a pas bâti de cette manière. Et je pense qu'il y a une réflexion certainement à porter lorsque l'église traverse des tempêtes, des coups de tabac, et il faut absolument que pour honorer notre Dieu, nous revenions à ce modèle. Ils enseignaient la parole. L'enseignement corrige. Il redresse. Il édifie. Ensuite, la communion fraternelle. Aimez-vous les uns les autres. Et puis également les prières. On prie. Et puis également le repas de Sainte-Cène, parce que c'est le centre. On en parlera tout à l'heure également. L'église n'est pas un bâtiment. Vous saviez? Alors où on est là? Vous avez vu les vitraux? Moi, ça fait 14 ans que je suis là, je les cherche encore. Non, c'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une organisation ou une institution humaine, quelconque. Soi-disant aussi religieuse, non. Cette église n'est pas régie par des traditions, des codes et des rites. On est libre. On est libre surtout avec le souci de nous laisser conduire dans un culte, dans une réunion d'évangélisation, dans une réunion de prière, selon ce que l'Esprit peut nous inspirer à un moment ou à un autre. Ce qui quelquefois interpelle nos visiteurs de première venue, c'est qu'ils voient qu'il y a des gens dans les chaises qui prennent la parole pour louer le Seigneur, pour le bénir, pour prier spontanément. Ça, c'est bien. C'est pas normalisé. Il y a une liberté qui fait que, eh bien, nous partageons ensemble selon ce que l'Esprit met dans le cœur de chacun. Il y a des hommes et des femmes qui viennent, des chrétiens qui viendront parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires dans la semaine. Et ils voudront peut-être en faire part dans leur louange, dans leur adoration. Il y a des gens qui viennent avec les larmes aux yeux, écrasés par les difficultés, peut-être par un drame qu'ils ont vécu les jours derniers. Eh bien, ils viendront aussi trouver la consolation et la paix en Dieu. Et puis toutes sortes de choses. C'est pas codifié, c'est pas normalisé. Il n'y a pas là, eh bien, une liturgie. Ça n'existe pas. Jésus n'a pas voulu que son église soit liturgique. C'est la liberté. Alors, ce n'est pas tout ce que nous avons dit. Je voudrais vous rappeler, parce que ce sont des choses simples, l'église offre deux réalités. Et je voudrais les rappeler, parce que quelquefois, il y a peut-être de la confusion dans nos esprits. Une des réalités est visible. Je dis bien visible. L'autre est invisible, elle est mystique. Alors attendez, au mot mystique, hein, on marche pas sur le plafond. Hein, on n'a pas des petits anges qui tournent autour de nous, et etc., etc. Non. Si vous voulez, elle est céleste. Une réalité qui nous est vraiment difficile à percevoir, parce que nous sommes de la terre, et nous sommes des hommes. Donc, la première réalité... C'est une réalité visible. On l'appelle l'église locale et pas l'église bocale. On ferme et terminé. On est entre soi, c'est formidable, c'est sympathique hein, d'être entre soi. Hein. Quand tout va bien, c'est formidable. Quand tout va mal, alors là, on cherche des issues. Hein. Non, l'église locale qui est implantée dans un endroit déterminé, si vous voulez des mots pour le préciser, localisée, adressé, et ça c'est important, C'est important de le savoir, hein, parce que vous avez remarqué que l'exemple qui nous est donné par Paul, c'était l'église locale. La lettre de Paul aux Corinthiens, 1-2. La lettre de Paul aux Romains. La lettre de Paul aux Philippiens, aux Thessaloniciens, 1-2. C'était l'église locale qui était dans un lieu tout à fait déterminé, dont les caractéristiques, et c'est important de le rappeler, se veulent connues et évidentes par la bonne réputation dans son environnement. Contrairement aux sectes, l'église de Jésus-Christ doit avoir un bon témoignage dans son voisinage, dans son environnement, auprès des pouvoirs publics, auprès de tous ceux qui sont à même, finalement, eh bien, d'entendre parler de ce lieu où l'on adore Jésus, où l'on sert Jésus, de dire « ce sont des chrétiens ». Nous les reconnaissons par l'exemple, nous les reconnaissons dans leur vie professionnelle, dans leur vie, eh bien là, peut-être familiale ou dans d'autres situations, mais on les reconnaît comme des gens qui, quelque part, eh bien, ont été touchés par quelque chose dans leur vie, dont la vie a changé. Leur langage, ce n'est plus la vulgarité ou toutes sortes de grossièreté, il s'est passé quelque chose. Et puis dans bien d'autres choses, des addictions telles que l'alcool, ou le mensonge, ou autre chose. Des vies dépravées, par exemple. Non. Un bon témoignage, une bonne réputation dans son environnement. Et puis, ce qui fait l'église locale, c'est l'unité de ses membres. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes un en Jésus-Christ. C'est pas facile, parce que vous vous rendez compte. Quand je vous regarde, je vois des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux verts, rouges quelquefois. C'est pas l'arc-en-ciel, hein. Des cheveux blonds, des cheveux bruns, c'est vrai. On a des tailles différentes. Il y a toute une multitude. L'église de Jésus-Christ, c'est une mosaïque. Vous savez ce que c'est qu'une mosaïque? Et c'est ce qui fait la beauté de l'ensemble. C'est pas une pièce qui fait véritablement une mosaïque. C'est un ensemble harmonieusement entretenu et composé. Donc, l'unité de ses membres, c'est essentiel. C'est la communion fraternelle. C'est-à-dire que nous sommes peut-être pas à même de penser tous la même chose, mais de nous respecter dans ce que nous pensons. Tu vas penser comme moi, parce que moi je suis la référence. Tu vas faire comme je te dis. Non, nous avons nos vies. Et si nous dépendons de quelque chose, nous dépendons de Dieu, du Seigneur, de Jésus. Et non pas, en effet, une sorte de régiment, ou une sorte de casernement, alors c'est la secte. C'est quelque chose qui est très malsain. Et ça se voit tout de suite à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont sectaires? Qu'est-ce qu'ils ont la manière de penser comme ça? C'est terrible. Hein. Donc l'unité, la communion fraternelle, et puis l'Église. C'est son accueil sans exception de personne. Qu'il y ait des blancs, des noirs, des jaunes, des violets, de tout ce que vous voulez, c'est pour tout le monde, hein. L'Église, elle est multi, elle est plurielle, l'Église, et c'est ce qui fait sa richesse. D'ailleurs, on le voit dans cette page qui se tourne en renfermant l'Ancien Testament où c'était l'exclusivité des Juifs. On voit que le Nouveau Testament est l'Évangile, mais il y a un Zachée publicain, il y a des pharisiens qui se convertissent, bien convertis, il y a des Marie-Madeleine avec des vies qui sont complètement... Il y a des malades, des boiteux, toutes sortes de gens. Il y a là des Samaritains, il y a tout le monde. C'est ça l'Église, son accueil. Vous connaissez la parabole du bon Samaritain, hein, c'est l'ouverture véritablement à l'universalité du christianisme. L'Église, c'est l'encouragement. On est là pour s'encourager les uns les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. L'encouragement. Combien nous avons trouvé tous les bienfaits dans l'Église, lorsque nous avons été souffrants, lorsque nous avons été malades, à travers une petite carte, un petit mot, un mail, un appel téléphonique, ou quelquefois, rien du tout, mais de dire, lorsque nous revenons en bonne santé, parce que c'est grâce à la prière aussi des uns et des autres, en disant, je ne t'ai pas appelé, mais j'ai pensé fortement à toi, eh bien, ça revient au même. La communion fraternelle. Il y en a qui vont l'exprimer chacun à leur manière. Mais c'est dit. C'est fait. C'est un cœur, une âme, une pensée. C'est un mouvement, en quelque sorte, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, l'encouragement. On a vu trop souvent dans les églises, et je parle pour nous, quelquefois des gens qui viennent, ils sont déjà découragés, ils repartent, ils sont deux fois plus découragés. Ah, tu sais, hein, moi j'aurais dû dire la maladie que tu as, moi j'en ai vu souvent mourir. Hein. Je peux vous dire que vous repartez gonflé là. Hein. Enfin, gonflé, façon de parler. Hein. Plutôt... Faisons attention à ce que nous disons, il y a des paroles assassines, hein, même parmi les chrétiens. Attention, hein. C'est aussi le service et le partage mutuel, la mutualisation de nos moyens. Moi, je me réjouis que dans des petites églises dans lesquelles nous avons travaillé, il y a eu tant de générosité. Je dis pas ça parce que, bon, voilà, je le dis parce qu'on l'a vécu. On a pu mutualiser nos moyens dans les moments où il fallait faire un effort. Moi, je pense à la construction de la nouvelle salle de Redon. Et puis, pour les plus anciens, comment on a pu se sortir de certaines situations économiques et financières? Par la grâce de Dieu. Et parce que Dieu vous avait mis à cœur. Et moi, je dis merci Seigneur, mutualisation. C'est ça l'Église. C'est pas le bouton de culotte que l'on met dans le tronc. Oh, excusez-moi, il y a des trous dans le bouton de culotte. Excusez-moi, je suis quelquefois un petit peu pas toujours bien. Alors, mutualisation des moyens divers sans oublier l'amour vrai et la vérité que nous nous devons les uns et les autres. C'est pas du genre, je te dis tes quatre vérités, hein. C'est pas ça, parce que là, vous allez décoiffer et... Non, non. C'est de pouvoir le faire avec respect de l'autre. C'est de pouvoir, même s'il a fauté, même s'il a fait une bêtise, de lui dire, écoute, hein, on est là pour t'aider à repartir. Et c'est pas divulguer tout ce qui se passe dans une église pour que la personne qui a fauté en ait honte et après elle revient jamais. C'est de pouvoir dire, bien, on repart ensemble. Tu crois au pardon de Dieu? Tu t'es repenti? Ben alors on repart. Le Seigneur pardonne. Dans la vérité, pas les quatre vérités. Et puis il y a un but défini à l'Église. C'est sa croissance. Eh oui, tout est soumis dans la nature à la croissance, que ce soit les végétaux, les animaux, les humains. Ouais. Et je crois que dans la foi, c'est pareil. On commence avec un grain de sénévé. Le Seigneur répond une parole de l'Évangile. Et là va naître à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, eh bien, une petite plantule de rien du tout. C'est comme un grain, c'est rien. Et puis après, ça va grandir, ça va pousser. Ça va devenir un arbre. Ça va devenir une plante, un céréal, qui va produire 50, 80 ou 100%. C'est ce qui peut réjouir un pasteur, hein, cela. Et ce qui nous réjouit les uns les autres quand on voit des gens qui arrivent. Dans l'état dans lequel ils arrivent dans l'église, par rapport à une vie qui a été une vie cassée, brisée, piétinée, humiliée, et de les voir qui retrouvent finalement, eh bien, leur dignité et une nouvelle dimension à leur existence. Moi, je dis que ça, la conversion, c'est plus grand que quand un boiteux marche et un aveugle voit. Ah ouais, ça se voit pas comme ça, mais ça se voit avec le temps. La greffe a prise. Si je peux me permettre un terme d'arboriculture. Et c'est le témoignage de la foi, pour que votre foi soit de plus en plus forte. Marchez de progrès en progrès, nous dit Paul. Ça, c'était l'église locale. C'est notre travail à tous. C'est pas seulement le travail du pasteur. C'est le travail à tous. Et puis, il y a l'église universelle. Ah, peut-être que ça vous intéresse de savoir ce que c'est que cet autre aspect, qu'on appelle l'église céleste, l'église mystique. L'Église universelle, c'est l'ensemble invisible des chrétiens nés de nouveau. J'y tiens. Ouais, c'est pas un baptême d'enfant. C'est pas seulement même un baptême adulte. C'est naître de nouveau. Selon le grand principe que Jésus définit dans sa rencontre avec Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Avec la transformation qui va avec. Donc, des chrétiens nés de nouveau, en tout lieu, dans tous les temps, ceux qui sont vivants aujourd'hui comme vous l'êtes, comme je le suis, dispersés dans la multitude d'églises locales qui se trouvent sur la terre, dans notre temps à nous, en 2018. Et il y en a des millions et des millions, nous ne les connaissons ni de visage, ni de couleur de peau, ni de langue, Mais ce sont nos frères et nos sœurs parce qu'ils ont entendu le message de l'évangile, ils ont entendu parler de Jésus et ils ont cru en Jésus-Christ comme nous l'avons fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas le voir. On ne peut que le survoler. On peut en avoir la pensée. Ça, c'est l'Église universelle. Il y a des Chinois, il y a des Péruviens, il y a des Américains, il y a des Français, il y a de tout ce que vous voulez. Il y a même des Bretons, quelques-uns. Ça nous rassure, hein? Alors, l'Église universelle. En tout lieu, ceux qui sont vivants, dispersés ici ou là, partout, dans le monde. Et puis, c'est une espérance pour chacun d'entre nous. Dans l'Église universelle, il y a ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans le temps qui est le nôtre, nous avons perdu des pères et des mères, peut-être des enfants, des frères et des sœurs, sur le plan spirituel ou même sur le plan charnel. Ils étaient chrétiens, ils étaient nés nouveaux, le Seigneur les a repris, soit par l'âge, souvent c'est naturel, hein. Mais vous savez où ils sont? Ils sont déjà dans l'Église universelle, dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Jésus-Christ. Et nous les reverrons de l'autre côté. Pas de la manière dont vous les avez connus, nous les avons connus sur cette terre. On a des êtres chers, hein. Il y en a qui ont été nos pères spirituels. Il y en a qui ont été véritablement des hommes, qui ont montré l'exemple, avec de belles conversions et qui ont tenu jusqu'à la fin. J'ai gardé la foi. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, il y avait à la fois la tristesse de la séparation, mais la joie de savoir qu'ils étaient sauvés. L'Église universelle, elle est ainsi, et surtout dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est impératif. Nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie, et d'aller naturellement. Ils sont morts en Jésus-Christ, naturellement. Pour vous dire encore quelques mots pour ce sujet, le fonctionnement de l'Église, ça fonctionne. C'est pas des litanies, c'est pas des récitations, c'est pas se promener avec je ne sais quel encensoir ou des choses comme ça, rituels traditionnels, etc. Non, c'est pas ça. Hein. Le fonctionnement de l'Église, le cœur d'un culte, c'est le repas de Sainte-Cène. Il nous rappelle, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous, que son corps a été meurtri, le pain, que son sang a été versé, donc le vin, et que nous nous souvenons que Jésus a donné sa vie, que Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Emblème de son retour, il est venu, il est parti, et il revient bientôt. Le repas de Sainte-Cène, c'est le renouvellement de notre vie spirituelle que nous prenons. C'est traditionnel, vous allez me dire, c'est chaque dimanche. Mais je pense que, bon, c'est quelque chose qui est acceptable, parce que c'est un renouvellement dans notre vie spirituelle. Le fonctionnement, donc la célébration de la Sainte-Cène, et sa signification que je viens de vous dire en deux mots. Et puis, comment ça fonctionne l'Église? Parce qu'il y a des ministères. Les ministères, rien à voir avec celui des finances de Bercy et tout ça. Hein? Non, non. Il y a peut-être un ministère de santé publique, de santé biblique, de santé évangélique, et puis il y a un ministère du bonheur aussi. Moi j'y crois fermement, au cœur de l'Église. Le fonctionnement, les ministères de la parole. Je dis bien de la parole, parce que les cinq ministères qui nous sont donnés par l'apôtre Paul sont des ministères de la parole. Et ça j'y tiens. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, et il y a le docteur, l'enseignant si vous voulez. Et il fonctionne comme nous l'avons vu à travers ces quelques lignes que nous avons, eh bien là, citées il y a un instant. C'est leur tâche. Et l'Église, elle fonctionne parce qu'il y a des anciens. Non pas parce qu'ils ont les cheveux blancs, mais parce que ce sont des hommes qui ont été reconnus capables d'assumer la tâche, de partager la tâche avec le responsable spirituel en titre, c'est-à-dire le pasteur. C'est important, c'est un honneur, mes frères. Oui. Il y a également les diacres pour tout le fonctionnement de l'Église. Parce que si vous êtes dans une église qui est propre, enfin on essaie en tous les cas, qui a pas de fuite, bon, ça nous rappelle des bons souvenirs, mais que tout fonctionne à peu près bien pour que vous soyez confortablement assis, que vous puissiez vraiment écouter la parole de Dieu, moi je dis que c'est l'affaire des diacres aussi. Hein. Ils travaillent matériellement, ils contribuent avec les talents ou les capacités que Dieu leur a données à tenir une église propre et qui convient. Et puis il y a l'exercice des dons spirituels aussi, Ça, ça fait partie de l'organisation, le fonctionnement de l'Église. Combien nous pouvons bénir Dieu à travers les dons spirituels. Les paroles d'inspiration, c'est-à-dire les dons qui sont souvent partagés dans les réunions de prière ou les cultes comme ce matin. Il y a le parler en langue avec son interprétation et le don de prophétie, où là, eh bien, il y a des choses qui nous contribuent à l'exhortation, à la consolation et à l'enseignement. Il y a les dons de miracle, de puissance. Et puis, il y a les dons de révélation. Tout ça, quelquefois, ça marche ensemble. Mais c'est l'exercice de l'Église, dont le but est l'édification. Et puis, il y a, dans son expression, l'Église s'exprime à travers la prière. Nous parlons à Dieu. Nous nous parlons les uns et les autres, mais nous parlons au Seigneur tous ensemble, ou nous lui parlons individuellement. Nous mettons en commun, finalement, eh bien, ce qu'il y a sur notre cœur. Et si quelquefois nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, Dieu nous dit « Je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur ». Et c'est lui qui nous inspire. Et c'est lui qui, par des soupirs inexprimables, par le parler en langue, je ne veux pas être trop compliqué, eh bien, finalement fait monter des désirs dont nous ne trouvons pas les mots vers le trône de la miséricorde. Et si nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de dire dans nos prières, le Saint-Esprit vient nous aider, selon la pensée de l'Esprit. C'est formidable, l'Église, hein? Et tout ça, c'est enseigné dans le Nouveau Testament. Alors, ce que je voudrais maintenant, brièvement, quand je dis que c'est bref, c'est bref. Dans la Bible, l'Église de Jésus-Christ est nommée sous plusieurs appellations. Est-ce que vous les avez remarquées? Il est question du corps de Christ. Il est question d'un temple ou de l'édifice de Dieu. Il est question du sacerdoce royal. Il est question du troupeau de Dieu dont Dieu est le berger. Vous comprenez? Il est question de l'épouse ou de la fiancée de Jésus, l'Église. Il est question également de l'armée de Dieu. Il est question du chandelier. Il est question de la colonne et de l'appui de la vérité. L'image trouve son symbole à travers la vigne. Merci, hein. Bientôt, il y aura la vendange, là. J'ai pas oublié, hein. Je surveille ça tous les jours. La vigne, vous savez pourquoi, hein. L'Église est comparée au champ. Alors, brièvement, le corps de Christ. Le corps de Christ, un corps, il y a toutes les membres, les organes, etc., le corps. Mais il nous est dit que Christ est la tête. Je bâtirai mon Église. Jésus est la tête de l'Église, et c'est pas un pasteur. Loin s'en faut. Certainement pas. Quand un pasteur commence à partir dans cette ligne-là, c'est que ça va plus du tout, hein. La tête de l'Église, et il le représente comme un seul corps unique, dans lequel chaque croyant est un membre avec une place. Ne vous sentez pas inutile, frères et sœurs. Si Dieu vous a appelé, c'est que vous avez votre place au milieu de nous. Enfin, ici. Il y a une utilité pour chacun, et un rôle précis. C'est l'unité dans la diversité. C'est Jésus qui nous rapporte par les écrits de Jean. Il nous dira, je suis un, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et Jésus, qui se fait le bon berger, dira, mais j'ai encore plusieurs brebis dans le monde qui ne sont pas encore de cette bergerie. Je les appellerai, et ils rentreront, et nous serons qu'un seul troupeau. Lui, la tête, le berger, et le troupeau. C'est une image très bucolique, hein. Mais c'est une image, finalement, de dépendance d'un troupeau par rapport au berger. Et le berger, c'est pas le pasteur. Quoi que l'on en dise, c'est Jésus-Christ. Et puis, il nous est parlé d'un temple et de l'édifice de Dieu en parlant de l'Église. Les croyants sont le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous. J'espère que vos chevilles ne vont pas gonfler. Je suis le temple. Contemplez-moi. Où chacun est une pierre vivante, parce que Jésus est la pierre angulaire. Vous vous souvenez qu'il le dit souvent dans ses paraboles? Je suis la pierre angulaire, je suis la pierre de l'angle sur lequel tout l'édifice, finalement, eh bien, s'élève. Dans 1 Corinthiens, je voudrais quand même le rappeler, parce que ce sont des choses d'une grande pertinence. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 3 et verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est ce qu'on a dit, hein. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, dira-t-il, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pour nous montrer que c'est pas les hommes, c'est pas vous bâtirez l'église, c'est pas nous bâtirons l'église, laissons Babel où elle est, mais c'est Jésus qui dit les choses, pas d'autre fondement confirmé par les apôtres. C'est un sacerdoce royal. Qu'est-ce que c'est qu'un sacerdoce? C'est une prêtrise, on pourrait peut-être l'expliquer comme ça. C'est une mise à part d'hommes, de femmes, qui sont mis de côté, toujours dans la pensée de l'Église, et qui vont avoir un service. Et il est dit sacerdoce royal. C'est pas peu, hein, naturellement. L'Église offre un office au service de Dieu. Les termes qui sont un petit peu judaïsants, c'est tout simplement royaume de sacrificateurs. Bon, ça c'est écrit de cette manière. Afin que le plus grand nombre connaisse la vérité. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes des évangéliques, mais nous sommes des évangélistes. Afin que nous puissions eh bien répondre autour de nous la bonne nouvelle dans un monde où il y a tant de mauvaises nouvelles et tant de détresse. Pour que le plus grand nombre connaisse la vérité par l'Église. Christ est le souverain sacrificateur. Il est berger, il est le chef, il est la tête. Et tout le témoignage dont nous parlions vise simplement à annoncer les vertus de celui qui a appelé l'Église des ténèbres à passer à la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez donner de la saveur, vous devez donner du goût. Et puis vous êtes la lumière du monde, un monde où il y a tant de choses obscures. Et puis à nous séparer du péché, nous sommes une nation sainte, sans véritablement être au-dessus des autres. Ce n'est pas nous qui sommes la vérité, c'est Jésus qui est la vérité, tout simplement. Et puis, on a parlé du temple, de l'édifice, du sacerdoce royal, et puis il est question du troupeau de Dieu, en étroite relation avec cette parabole que Jésus nous dit, « Je suis le bon berger ». Il y a des faux bergers, il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs, enfin tout ce que vous voulez, hein. Et Jésus nous le dira. L'Église représente aussi la fiancée et l'épouse de Christ. C'est toujours, ça augure quelque chose de le bonheur, ça, fiancée et l'épouse. C'est qu'il y a une union entre le peuple de Dieu et Jésus qui est l'époux, nous dit l'Église. Elle est comparée donc à une future épouse, donc une fiancée qui se prépare pour le jour de son avènement, pour le jour du mariage. Et tout cela, c'est une préparation en vue de quelque chose de beaucoup plus grand. Le jour où l'Église rencontrera d'une manière céleste son époux, l'agneau, ça sera les noces de l'agneau. Ça va être drôlement bien, hein? Vous vous rendez compte? Un mariage qui n'en finit pas. C'est ce qui est dit, hein. Je passe rapidement, hein. Et puis il y a l'armée de Dieu également. L'Église, c'est l'armée de Dieu. L'Église est l'armée de Dieu qui combat sur la terre les dominations de ce monde par la prière, par la proclamation de l'Évangile et par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul ajoutera que Dieu nous a donné les armes de l'Esprit pour vaincre. Donc nous sommes une armée, et ça c'est particulièrement, ça se focalise particulièrement sur la prière, qui quelquefois ce n'est pas une prière, c'est aussi de la prière de la supplication, l'armée de Dieu. Le chandelier, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit, une lumière qui brille. Garde-toi de perdre ton premier amour, la flamme. Pour la plupart d'entre nous, pour nous tous qui sommes là, lorsque nous avons découvert l'Évangile, il y a une grande joie, il y a eu un bonheur, hein, c'est vrai. Mais avec le temps, tout ça, ça peut s'émousser. Et dans l'église d'Éphèse, il est dit, mais tu as perdu ton premier amour, et il faut le garder. Ce premier amour, cette flamme vive dont nous avons besoin. Il est question de la colonne et de l'appui de la vérité. Ce qui veut dire, tout simplement, que l'église de Dieu, du Dieu vivant, c'est la colonne et c'est le soutien de la vérité. Et cela signifie que l'Église a le devoir de garder la vérité biblique au travers des âges, de veiller aux fausses doctrines. Ça, c'est le travail du pasteur, hein, de l'enseignement qu'il apporte. Et de pouvoir finalement donner la capacité aux chrétiens que vous êtes, que nous sommes les uns et les autres, d'avoir le discernement de ce qui est juste, de ce qui est faux, de ce qui est lumière, de ce qui est ténèbre, de ce qui est vérité, de ce qui est mensonge. Et ça se fait pas du jour au lendemain, naturellement, mais nous devons l'apprendre. La colonne est l'appui de la vérité. Nous sommes le garant de la vérité évangélique. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et puis, il est question de la vigne, on l'a dit. Il est question du champ, qui est le symbole du travail de l'Église, l'ouvrage de l'Église dans l'œuvre de Dieu, que ce soit un champ, que ce soit une vigne. Beaucoup de paraboles ont été inscrits finalement dans l'image de la vigne, par exemple. Mais travailler, ça veut dire qu'il y aura une bénédiction. Ça veut dire qu'il y aura des fruits. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de tout à fait concret et de particulier. Et c'est ça ce qui est important. On a parlé des dons spirituels, mais il faudrait parler aussi des fruits de l'esprit. Et une église qui produit des fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Et il nous est même dit à un moment donné, c'est ainsi que le monde vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, entre autres l'amour, c'est un fruit. Et c'est le premier d'entre tous. Ce qu'elle n'est pas, et après je termine, l'équivoque entretenu dans le monde du christianisme. Ce qu'elle n'est pas. Je vous ai parlé de ce qu'elle est, bibliquement parlant, évangéliquement parlant, sous la conduite de celui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Maintenant, ce qu'elle n'est pas, c'est une équivoque. Et beaucoup de gens se fourvoient parce qu'on ne connaît que ça. Et tous les pays d'obédience chrétienne ont leur clocher, leur église, et ils ne connaissent que cela. Et on leur a enlevé, finalement, le critère de reconnaissance de la véritable Église parce qu'on leur a privé de lire la Bible pendant des siècles et des siècles. Alors, comment peut-il le savoir? Donc, c'est une équivoque. Et je dirais même que c'est un grand malentendu dans le monde. Je te donne rendez-vous à l'Église. C'est souvent le lieu parce qu'il y a un clocher, puis ça se voit un peu partout. Voilà, nous allons à l'Église. C'est auprès de l'Église, ceci et cela. Mais si ce n'est qu'un repère géographique, pour la plupart d'entre nous, enfin pas nous, mais beaucoup, c'est bien d'autres choses. C'est un malentendu. Le lieu d'abord, je l'ai dit, je le répète, jamais dans la Bible le mot « église » n'est utilisé pour désigner un lieu particulier. Et les hommes se sont évertués par leur architecture et leur art, hein, à faire des belles choses, des basiliques, des cathédrales, etc., etc. Mais tout ça, ce sont des monuments. Mais si l'esprit qui devrait y habiter n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est un château, c'est une belle demeure que l'on dédie à Dieu, mais si Dieu n'y est pas, parce que c'est pas dans les pierres. Ou si c'est dans les pierres, c'est dans les pierres vivantes, des gens qui sont convertis, naturellement. Ce n'est pas un bâtiment, et notre vocable, eh bien, l'utilise tellement. Le mot « église » ne définit pas quelque chose de matériel. On l'a vu ce matin, c'est spirituel. Les premiers chrétiens n'en avaient pas. Et oui, ils se réunissaient de maison en maison, de famille en famille, et il faut attendre le 3e et 4e siècle de l'ère après Jésus-Christ pour trouver des lieux où les chrétiens se sont rassemblés dans des milieux qui étaient dédiés, qui étaient véritablement affectés à un rassemblement comme celui d'aujourd'hui. Ça n'existait pas. Alors comment tout ça a subsisté? Ben, ça subsistait parce que finalement, toute cette construction, c'est l'œuvre de Dieu, tout simplement. Je bâtirai mon église. L'église décriée, l'église critiquée, et quelquefois pour de bonnes raisons, l'église persécutée, ça fait partie des heures sombres, finalement, de l'histoire du christianisme. L'église vénérée, en en faisant peut-être même parfois une idolâtrie. L'église défigurée, on l'a vu, mais permettez-moi de dire que l'Église, c'est la maison de Dieu où la foi, où l'amour, l'espérance prépare un autre monde, ce qu'on a appelé le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, déjà dans mon cœur, mais le royaume des cieux, c'est ça l'Église. Ça va aller? Ouais, c'est ça l'Église, et c'est ce que Jésus a dit. Je, moi, bâtirai mon église. Que Dieu nous bénisse. Et si je peux vous dire, rapprochez-vous. Soyez attachés à la personne de Jésus. Aimez sa parole. Et vous pourrez aimer vos frères et vos sœurs. Et vous pourrez aimer la vie nouvelle que Dieu vous a donnée. Alors nous allons simplement terminer et prier. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te remercier parce que il fut un temps où je connaissais l'Église, mais celle de mon enfance, celle de mes traditions, celle de ma culture, celle de ma famille. Et puis, tu m'as conduit, Seigneur, vers ce livre qui est la Bible, l'Évangile. Et au cœur de ce livre, il y avait un nom, le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, j'ai vu vraiment la différence. Non pas que je renie tout ce qui a été véritablement, eh bien, ma vie auparavant, mais j'ai découvert que l'Église, eh bien, c'était pas quelque chose de factuel, c'était pas quelque chose d'occasionnel. L'Église, elle est vivante tous les jours. Et nous savons, Seigneur, qu'elle est rendue vivante à cause de Jésus, en qui tu m'as rendu capable de croire qu'il était mort pour moi, qu'il est ressuscité. Et que 2000 ans après, il y a encore des millions et des millions et des millions d'hommes, de femmes de par le monde qui croient à cette bonne nouvelle. Seigneur, merci pour l'existence de l'Église. Merci pour sa réalité. Merci pour sa bonne santé, là où l'Esprit conduit et dirige toutes choses. Merci, Seigneur, pour le dynamisme que tu lui donnes, c'est-à-dire la puissance. Merci, Seigneur, cette puissance dans la faiblesse. Je ne veux pas l'oublier. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, mes amis, qui sont là ce matin, et d'avoir peut-être une émotion peut-être toute différente. Il ne s'agit pas d'un bâtiment, il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, mais il s'agit avant tout d'une réalité visible localement, invisible, Seigneur, universellement parlant, mais c'est la réalité de Christ au milieu de nous et de son Esprit Saint et de sa parole qui nous enseigne ces choses. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.